Sara Dante. C'est l'émission pour écouter et lire l'Italie.
Fantasiosi e più pieni di desiderio di superarsi.
Je suis Marie-Antoinette Lenzi.
Je suis Francesco Terzi.
Et nous travaillons au Centre culturel italien d'Antalighieri.
E così non hai soprattutto parlato agli altri.
Laura Dante.
Dans cette émission, nous vous ferons voyager à travers les différents genres littéraires pour découvrir des pépites.
Questa culturazione sta distruggendo in realtà l'Italia.
À chaque fois, nous serons accompagnés par des écrivains et des spécialistes du monde des lettres en Italie.
Et sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato per un amore nuovo.
E poi avevano iniziato a sparire, senza avvertire, senza che un segno o un gesto ci avessero fatto capire cosa stava succedendo. Semplicemente non c'erano più. La nostra vita sarebbe potuta continuare come niente fosse, certo. Qualcuno li avrebbe pianti, qualcun altro si sarebbe sentito in colpa e noi li avremmo considerati alla stregua dei morti. Lutti che ogni società mastica e digerisce dall'alba dell'umanità, seppur con gradi di difficoltà variabile. Ma così, come morti, prima o poi li avremmo assorbiti e dimenticati. Invece no, non potevamo neanche piangerli. La loro assenza era una sagoma dai confini visibili, un nulla pesante e rumoroso, un fardello che ciascuno di noi portava sulle spalle o sulla testa o nel cuore. Erano spariti e dunque il vuoto che avevano lasciato era ancora lì tra noi, nei bar, al lavoro, tra le lenzuola o attraverso le mura del vicino di casa. La nostra inquietudine era diventata la loro nuova dimora e non è paradossale affermare che per alcuni di loro sia stato il momento in cui erano più vivi. Nous avons lu un extrait de Oltre la diaspora, un livre de Daniele Combirati, et nous avons la chance de l'avoir ici avec nous. Daniele, buongiorno.
Bonjour, bonjour, merci.
Buongiorno.
Daniele, il est maître de conférences à l'Université Paul Valéry. Il est spécialiste de science-fiction italienne et de littérature d'immigration, mais il est aussi écrivain. Et donc, on est ravis de présenter son dernier livre, Oltre la diaspora, qui à la fois met ces deux passions ensemble. Il y a la thématique de la migration et la thématique de, je peux dire, de la science-fiction, parce que, comme on voit bien dans l'incipit qu'on vient de lire, les personnages de ces livres disparaissent. C'est pas qu'on ne les trouve plus, c'est pas qu'ils sont cachés, c'est pas qu'ils sont morts. Simplement, il y a une absence d'être. C'est les néants. Ils sont nulle part.
Oui, merci Marie-Antoinette. Oui, effectivement, j'ai un peu joué sur, d'un côté, la représentation historique, non, de certaines trajectoires de migration italienne un peu moins connues, et donc des luttes politiques, aussi des femmes qui ont été un petit peu oublié, disons, et aussi sur l'immigration actuelle. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'on raconte l'immigration italienne un peu toujours dans le même contexte générationnel, c'est-à-dire des personnes qui ont entre 20, 45, 50 ans et qui sont migrants. Et après, ils deviennent quoi ? Ils deviennent étrangers, c'est-à-dire ils changent de nationalité ou ils restent toujours migrants. Mmh. Et j'étais un peu fasciné par ce vide même, disons comme ça, anthropologique. Et donc, je me suis amusé à réfléchir à ce qu'il s'est passé si, à un moment, les immigrants italiens actuels commençaient à disparaître. Et donc, une personne de l'Italie devait retrouver des amis disparus.
Mmh. Le thème de la disparition n'est pas nouveau dans ta production. Tu as écrit un livre magnifique, un recueil d'histoires qui s'appelle « Diario delle mie sparizioni », donc « Cahier de mes disparitions », où aussi les personnages disparaissent. Il y a beaucoup d'histoires dans les livres où simplement les personnes disparaissent, on ne sait pas où elles sont parties. Parfois elles reviennent et on ne sait pas comment, même elles ne savent pas où elles étaient. C'est vraiment des vides d'existence. D'où vient cette thématique pour toi ?
Alors effectivement, dans le recueil que tu as cité, il y a au moins deux contes, dont le conte à partir duquel le titre a été tiré, donc « Il diario de la mia sparizione », où il y a des personnages qui disparaissent. Moi, j'ai toujours été intéressé aux disparitions parce que finalement, dans notre vie, on considère toujours les relations qu'on a, no? D'amitié, sentimentale, etc., etc. Mais si on fait attention réellement à toutes les relations qu'on a tout au long de notre vie, les disparitions des relations sont beaucoup plus nombreuses, c'est normal en même temps. Et ce sont aussi ces disparitions qui nous créent en tant qu'être humain. Sauf qu'au bout d'un moment, on les oublie un peu, non? Et cela m'intéressait aussi pour l'idée de l'inconnu, de l'impossibilité de comprendre. Donc une personne qui disparaît, et c'est tout. Et même si cette personne revient, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Je trouve que dans un contexte comme celui actuel où les réseaux sociaux nous donnent l'idée, mais c'est une fausse idée bien évidemment, de tout savoir sur les autres, de tout documenter sur nous-mêmes, peut-être que parfois les moments de vide sont plus intéressants. Mmh. Voilà.
J'aime beaucoup l'idée de constituer comme être humain à partir de nos vides, de nos pertes, au lieu que de nos réussites ou de nos, des choses qui se passent.
Je voulais te demander, tu disais lors d'une interview que dans la littérature, la littérature diasporique, on pourrait l'appeler, il y a des éléments récurrents, par exemple celui d'une certaine polyphonie, parce que tu disais que souvent on change le point de vue, on change la voix qui nous raconte l'histoire. Et aussi dans ton livre, il n'y a qu'une seule protagoniste, Antonio, qui cherche les Italiens qui sont disparus à l'étranger, mais quand même il recherche plusieurs personnes. Donc en nous donnant une perspective sur plusieurs pays. Donc pourquoi tu penses que la littérature diasporique et la polyphonie sont aussi enchaînées?
Alors, moi je te parle personnellement, sans trop de réflexions scientifiques à côté. Dans mon expérience personnelle, la première langue étrangère que j'ai appris était le français. Donc j'avais passé quelques mois en France avant de venir ici à Montpellier. Et je m'étais rendu compte d'une chose intéressante, banale, mais qui à l'époque je ne connaissais pas, c'était qu'en parlant une nouvelle langue, je changeais comme personne. C'est-à-dire que les mots que j'utilisais n'avaient pas dépassé, donc je pouvais paradoxalement me permettre, même avec un vocabulaire forcément plus limité, mais d'être, je dirais pas plus moi-même, parce que j'étais aussi l'autre personne, mais d'aller en profondeur de choses dont j'avais peur de parler dans ma langue maternelle, l'italienne. À l'époque, j'étais très timide en italien, très timide sur des choses plus profondes sur moi-même. Et en français, non, je ne l'étais pas. Parce que les mots ne me posaient aucun problème psychologique, disons comme ça. Aucune honte. Parce que c'était la première fois que je les prononçais. Donc c'était pour moi des mots sans aucun passé. C'est à partir de cette idée, de cette petite expérience personnelle, que je me suis posé la question de la polyphonie. C'est-à-dire qu'à chaque migration, on change un peu. Et après, on revient. Mais il y avait une écrivaine italienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Laura Pariani, qui avait migré en Argentine et qui parlait, dans un petit conte, elle avait raconté l'histoire d'une femme en Italie dont le mari était immigré. Le mari revient. Elle ne sait pas que le mari a une autre femme en Argentine. Le mari ne dit rien. Chaque fois, le soir, le mari se met à regarder la fenêtre. La femme ne sait rien, mais elle comprend. Et elle dit tout simplement, je sais très bien que mon mari, cette personne qui est là, n'est plus mon mari. Parce que la personne qui revient n'est plus la personne qui est partie. C'est autre chose. C'est cette personne et quelque chose d'autre, avec quelque chose en plus et quelque chose en moins. Et donc, c'est à partir de cette idée que je commençais à décrire ces différents personnages qu'on croise dans l'histoire, qui sont aussi des personnages qui, après, c'est un peu comme une sorte de boîte chinoise, non? Comment dire, que un personnage qui ouvre l'histoire d'un autre, etc., etc.
Ton livre m'a fait penser à un essai du philosophe et sociologue algérien Abdelmalek Sayad, qui écrit le livre « Double absence », qui parle justement du fait que quand on émigre, Bah, par exemple, moi, je suis italienne et ça fait des années que je suis en France. Et je sais que quand je reviens en Italie, bah, je suis la française. Je ne suis plus italienne. J'ai perdu des coutumes, j'ai perdu des choses. Et je ne suis plus italienne en Italie. Et à la fois, je ne suis pas française en France. Je ne me considère pas française. Je ne suis pas considérée comme française. Donc, on est un peu dans cette... lieu au milieu, lieu de nulle part, c'est vide entre les deux, cette double absence à nous-mêmes et aux autres où on appartient à autre chose. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Et oui, c'est un livre qui m'avait beaucoup plu quand j'ai écrit ma thèse de doctorat. Effectivement, je l'avais lu avec un grand intérêt. Et j'avais pensé aussi à un autre ethnologue, anthropologue italien, qui en plus est de ta région, de Pouille, qui est Ernesto De Martino. Okay. Ernesto De Martino travaillait vraiment sur l'émigration comme une sorte d'autre mort pour les familles. Et moi, je me rappelle, mon père vient de Calabrie et vient d'une famille de 9 enfants, qui, à l'époque, ma grand-mère en avait fait 11, mais 2 étaient morts. C'est une chose qui arrivait assez souvent dans l'Italie du Sud. La mortalité enfantine était fréquente et c'était bien évidemment triste, mais pas tragique comme il peut l'être aujourd'hui où les familles font 1, 2 enfants. Donc la mort d'un enfant est une tragédie. Là, tu en fais 11 et tu restes avec 9. Je veux dire, je veux pas être cynique, mais c'était moins dramatique. Par contre, ma grand-mère, pour les fils qui étaient émigrés à Turin, à Milan, pas forcément à l'étranger ou en Allemagne, elle avait un désespoir. Si à Noël, elles étaient là, elles n'étaient pas là, il y avait la photo, on ne pouvait pas trop les nommer comme s'ils étaient morts. Il suffisait de les appeler au téléphone, je veux dire. Ils étaient avec leur belle famille ailleurs. Ce n'était pas des histoires si tristes que ça, au contraire. Mais cela m'avait fait penser à l'émigration, effectivement, comme disparition. Une personne n'est pas là, parce que c'était des communautés rurales, non, dans l'Italie du Sud. Donc, la communauté rurale est basée aussi sur l'être concret, la personne qui est là ou qui n'est pas là. Si la personne n'est pas là, elle est morte pratiquement. Et De Martino l'avait beaucoup vu, donc je me suis beaucoup aspiré à sa pensée, je dois dire, oui.
En psychologie, ça s'appelle les deuils liminales. Donc c'est pas, par exemple, des personnes qui ont l'Alzheimer. C'est des personnes dont on peut pas faire les deuils parce qu'elles sont là, mais c'est pas les mêmes personnes. Et la migration, c'est effectivement une expérience de deuil liminal parce que bah, la personne existe, elle est vivante, mais juste elle est ailleurs, elle nous appartient pas, elle n'appartient pas à un pays, à une culture, et donc elle est dans cet espace liminal entre les deux vies. Et donc, comment tu as voulu exprimer cette expérience-là dans les romans?
Alors moi, je suis parti de l'idée qu'il fallait raconter des histoires un peu moins connues. Donc j'ai pris trois villes dans trois pays qui ne sont pas des destinations d'émigration typiques des Italiens. Donc Barcelone avec l'Espagne, Stockholm avec la Suède et Amsterdam avec les Pays-Bas. Et j'ai commencé à faire des recherches, à faire des entretiens et je me suis retrouvé avec des centaines et centaines d'histoires intéressantes. La plupart de ces histoires avaient été un peu oubliées. Donc c'est à partir vraiment de ces absences, de ces disparitions que j'ai commencé un peu à reconstruire les romans. Il me fallait aussi un fil rouge qui est un peu cette recherche, mais c'est une quête qui, bah, je ne veux pas faire du spoiler, mais c'est une quête qui, bien évidemment, même si cette quête aura du succès, ne change rien à l'histoire oubliée. Et après, je me suis posé aussi une autre question, parce que j'ai vécu quelques années en Belgique. En Belgique, il y avait eu une énorme émigration italienne pour travailler dans les mines. C'est une émigration italienne d'une classe sociale, bien évidemment, plus basse. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle émigration pour les gens qui travaillent à la communauté européenne. Toujours des Italiennes, mais de classe sociale plus élevée quand même, qui ont fait des études, qui ont de bons salaires, etc. etc. Et c'était intéressant pour moi de voir à quel point ces deux histoires se regardent, mais ne se touchent plus. Ils reconnaissent quelque chose en commun, mais aussi des choses qui les ont totalement éloignées. Donc c'était un peu à partir de cette idée que je commençais à écrire, à penser à l'écriture, parce qu'après je l'ai commencé à écrire plus tard, vers le 2018, mais c'est-à-dire la première idée dans ma tête est née avant.
la fuga des cervelli. Cette vague oui. qu'on a dans beaucoup de pays européens, mais surtout en Italie, donc c'est maintenant, c'est des personnes qui ont fait vraiment de bonnes études et qui pour des questions de travail et d'opportunités qui voyagent ailleurs et justement surtout dans les pays du nord de l'Europe. Et c'est une question aussi en Italie parce que surtout le sud de l'Italie maintenant est dépeuplé de jeunes. On a beaucoup de villages, qu'on appelle fantômes, et ça me fait penser aussi au sous-titre de ton livre, que c'est Histoire de fantômes, justement.
Oui, alors effectivement, j'y ai beaucoup pensé à ces villages qui se vident, et j'ai pensé aussi à une image, les usines, les fabriques où les Italiens travaillaient, après la déindustrialisation totalement vide qui devient autre chose, par exemple gentrifiée, etc., etc., et qui n'ont plus de mémoire.
Nous avons parlé de Oltre la diaspora, Storie di fantasmi, un livre di Daniele Comberati, disponibile dans les éditions Rubettino. Et donc, je remercie beaucoup Daniele qui a été avec nous aujourd'hui pour parler de science-fiction et un peu aussi d'immigration italienne. Et ça, c'était L'Ora Dante, l'émission pour lire l'Italie. Tous les livres dont nous avons parlé aujourd'hui sont disponibles dans la bibliothèque du Centre culturel italien Dante Alighieri, qui se trouve dans le centre-ville de Montpellier, au 25 rue Sainte-Ursule. Vous êtes bienvenus à venir lire dans notre bibliothèque ou à emprunter les livres. Voilà. L'Ora Dante, c'est l'émission pour écouter et lire l'Italie.
Con l'amore è l'unico sentimento che ci fa battere il cuore.
Je suis Maria Antonietta Lenzi.
Je suis Francesco Terzi.
E noi lavoriamo al Centro Culturale Italiano Dante Alighieri.
E così non hai soprattutto parlato agli altri.
L'Ora Dante.
Questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia.
Tous les livres dont nous avons parlé sont disponibles dans notre bibliothèque au 25 rue Sainte-Ursule. Car le but de notre association est de promouvoir la langue et la culture italienne sur le territoire de Montpellier. Alors, venez nous rendre visite dans les Cussons.
Et sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai.